de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Commémoration de la Journée des Nations Unies et l'an pour le renforcement du multilatéralisme et de la collaboration. Indonésie possède 3,39 millions d'hectares de mangroves. Vice-président de la République d'Indonésie inaugure officiellement le forum et l'exposition 2023 de la Confédération des organisations de femmes de l'ASEAN, ACWO. Indonésie ne reste pas silencieuse sur la question de Gaza. L'Union européenne intensifie ses efforts pour parvenir à une solution à deux États Palestine-Israël. FIFA reporte le calendrier des matchs de l'équipe nationale israélienne en raison du conflit israélo-palestinien. Et coureuse indonésienne de para-athlétisme remporte avec succès des médailles d'or aux Jeux para-asiens de Hangzhou 2022. Bonjour, Jeter, voici les nouvelles en complet. Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, en collaboration avec les Nations Unies en Indonésie, a organisé une commémoration de la Journée des Nations Unies mardi 24 octobre 2023 à Jakarta. Dans son allocution, le directeur général par intérim de la coopération multilatérale au ministère des Affaires étrangères, Tripurnajaya, a déclaré que, prenant le thème « Notre avenir commun, paix et prospérité pour tous », la commémoration de la Journée des Nations Unies 2023 souligne l'importance de renforcer l'esprit du multilatéralisme et la collaboration. Selon lui, cela vise à réaliser une paix et une prospérité partagées, pas seulement pour la génération actuelle, mais aussi pour les générations futures. Tripurnajaya a dit:
Tahun 2023 ini memiliki arti penting karena kita berada di separuh jalan menuju target pencapaian.
L'année 2023 a une signification importante car nous sommes à mi-chemin vers l'objectif d'atteindre les objectifs de développement durable, ODD, en 2030. Cependant, nous constatons également que les progrès dans la réalisation des ODD sont encore loin de ce qui était attendu. cette année est également importante car les discussions sur les préparatifs du sommet du futur en 2024 débuteront l'année prochaine, ce qui constitue un élan important pour encourager la réforme de l'ONU et du système multilatéral dans son ensemble. Tripunajaya a en outre déclaré que la Journée des Nations Unies célébrée chaque 24 octobre est également un moment de réflexion sur les diverses réalisations et défis de l'ONU à l'avenir. La commémoration de la Journée des Nations Unies 2023 à Jakarta a été animée par un certain nombre de débats télévisés mettant en vedette des intervenantes de divers milieux partageant leur point de vue sur l'ONU. La diplomatie indonésienne, le patrimoine culturel immatériel et l'énergie. La commémoration de la Journée des Nations Unies regorge également d'expositions sur les opportunités d'emploi à l'ONU et dans d'autres organisations internationales. Le ministère de l'Environnement et des Forêts KLHK a déclaré que l'Indonésie possède 3,39 millions d'hectares de mangroves, soit l'équivalent de 31% du total des forêts de mangroves dans le monde. La directrice de la réhabilitation des eaux terrestres et des mangroves au ministère de l'Environnement et des Forêts, Inge Ratnawati, a déclaré que sur la base de la carte nationale des mangroves PNM 2022, la superficie des mangroves en Indonésie est passée à 3,39 millions d'hectares. Citant le rapport d'Antara, Inge Ratnawati a expliqué mardi que la province avec la plus grande forêt de mangroves et la Papouasie qui compte plus d'un million d'hectares de mangroves, suivie par la province de Papouasie-Occidentale avec 480 000 hectares et Riau avec 227 000 hectares. En dehors de cela, sur la base des recherches effectuées, l'Indonésie compte 202 types de mangroves. Le vice-président de la République d'Indonésie, Maruf Amin, a officiellement inauguré le forum et l'expo 2023 de la Confédération des organisations de femmes de l'ASEAN, ACWO. Citant le site officiel du vice-président mardi 24 octobre 2023, il espère que cette activité pourra apporter de nombreux avantages aux femmes de l'ASEAN et devenir une véritable arène pour l'autonomisation des femmes de l'ASEAN, ainsi que pour renforcer les capacités et le réseau de coopération des acteurs des MPME dans l'ASEAN et pour aider l'ASEAN à continuer d'être une région pacifique, ainsi qu'un centre de croissance économique mondiale durable. En dehors de cela, le vice-président de la République d'Indonésie a considéré les femmes comme des figures fortes en étant le moteur de l'économie à travers les micro, petites et moyennes entreprises pendant la pandémie de COVID-19. En dehors de cela, les femmes constituent le fondement de la construction d'une société asiatique forte. Enseignant et diffusant les valeurs de modération à la jeune génération, le Forum et l'Expo 2023 de la Confédération des organisations de femmes de l'ASEAN, ACWO, auront lieu du 24 au 26 octobre 2023. Ce forum vise à accroître les connaissances des femmes et des actrices des MPME dans la région de l'ASEAN. Le représentant permanent de la République d'Indonésie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Armanata Nasir, a déclaré que l'Indonésie ne resterait pas silencieuse dans ses efforts pour résoudre le conflit à Gaza. L'ambassadeur Armanata, lors d'une conférence de presse du ministère indonésien des Affaires étrangères, à laquelle a participé mardi l'Indonésie en ligne à Jakarta, a déclaré que les consultations informelles menées par l'Indonésie avec divers pays au Conseil de sécurité de l'ONU avaient pour but d'encourager le Conseil de sécurité de l'ONU à prendre mesures pour cesser le feu et permettre l'accès de l'aide humanitaire. Armanata a également admis qu'il s'était entretenu directement avec les représentants permanents des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, notamment la Chine, le Japon, Malte, l'Angleterre et d'autres, pour faire pression en faveur d'une résolution du conflit à Gaza. En dehors de cela, l'Indonésie s'est également entretenue avec divers comités de l'Assemblée générale des Nations unies pour soulever et exprimer la situation à Gaza afin que la question retienne l'attention. Parallèlement, en plus de continuer à encourager les pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Indonésie encourage également la Ligue arabe et l'Organisation de la coopération islamique, OCI, a demandé à l'ONU de tenir une session extraordinaire à l'Assemblée générale pour discuter de la résolution du conflit en Gaza. L'Indonésie a également recueilli le soutien des pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, et d'autres pays pour faire pression en faveur de la session extraordinaire proposée, qui a finalement été acceptée par le président de l'Assemblée générale des Nations unies pour se tenir le 26 octobre 2023. L'Union européenne intensifie ses efforts pour relancer le processus de paix au Moyen-Orient dans le but de parvenir à une solution à deux États au conflit israélo-palestinien. Citant Antara mardi 24 octobre 2023 dans un article de blog, le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, a évalué la position du bloc sur le conflit israélo-palestinien et a estimé que la communauté internationale doit agir pour éviter les mauvaises choses qui pourraient résulter de le blocus. Borrell a souligné que la communauté internationale, dont l'Union européenne fait partie, n'a pas réussi à mettre en œuvre efficacement l'accord d'Oslo qui existe depuis trois décennies. Il a souligné qu'une solution à deux États reste l'option la plus fiable, malgré les complexités, et a appelé toutes les parties prenantes à concentrer leurs efforts politiques pour y parvenir. La FIFA a rapporté 4 matchs impliquant l'équipe nationale israélienne pour novembre 2023 en raison du conflit en cours en Palestine. Citant Tempo, mercredi 24 octobre 2023, le rapport a été annoncé par l'instance dirigeante du football mondial le lundi 23 octobre 2023. La FIFA a déclaré que le match reprogrammé se jouerait aussi près que possible de la trêve internationale de novembre. Les éliminatoires du groupe 1 de l'Euro 2024 entre le Kosovo et Israël et Israël et la Suisse auront désormais lieu respectivement les 12 et 15 novembre. Le match entre Israël et le Kazakhstan dans la Ligue féminine des Nations a été reporté au 23 novembre et se jouera plus tôt, le 26 novembre. Les attaques israéliennes contre la région de Gaza depuis le 7 octobre ont tué des milliers de personnes. Le ministère palestinien de la Santé a rapporté que plus de 5000 Palestiniens ont été tués, dont 2000 mineurs et 1100 femmes. La coureuse indonésienne Nimad Arianti Putri a réussi à ajouter une médaille d'or pour l'Indonésie grâce au para-athlétisme dans le 100 mètres T12 féminin aux Jeux para-asiatiques de Hangzhou 2022 au stade du centre sportif de Huanglong en Chine mardi 24 octobre 2023. Citant Antara mardi, l'entraîneur indonésien d'athlétisme Slamet Widodo a déclaré dans un communiqué officiel que la médaille d'or remportée par Arianti était une surprise, car initialement Arianti n'était ciblée que pour obtenir une médaille de bronze. Arianti a été l'entraîneur le plus rapide avec un temps de 12,52 secondes. La médaille d'or remportée par Arianti était la deuxième médaille d'or dans le sport d'athlétisme. Après la médaille d'or remportée la veille par Saptayoga Purnomo dans la course masculine de 400 mètres T37. En dehors de cela, ce sport a également reçu une médaille d'argent offerte par le sprinter Eko Saputra dans la course de 100 mètres T12 avec un temps de 11,22 secondes. Avec ces médailles, l'Indonésie a occupé mardi 24 octobre 2023 la septième place du classement avec 3 médailles d'or, 4 médailles d'argent et 5 médailles de bronze. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Les nouvelles d'aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui, avec moi Audrey. Intitulé « Nouveau chapitre de l'élection présidentielle de 2024 ». Chers auditeurs, aujourd'hui le 25 octobre 2023 est le dernier jour d'inscription des candidats indonésiens à la présidentielle et à la vice-présidence participant à l'élection présidentielle générale de 2024. Deux paires de candidats à la présidentielle et à la vice-présidence, à savoir Ganjar Pranowo Mahfud MD et Anies Baswedan Mohaimin Iskandar, se sont inscrits. Avec la commission électorale générale le 19 octobre 2023. Pendant ce temps, le couple Prabowo Subianto et Gibran Rakabuming Raka s'est inscrit le 25 octobre. Après l'inscription, il reste encore plusieurs processus que toutes les paires des candidats à la présidentielle et à la vice-présidence doivent suivre. La prochaine étape est que les trois paires de candidats à la présidentielle et à la vice-présidence soient soumises à des contrôles de santé. Le couple Ganjar Mahfoud MD a subi un examen médical de 9 heures à l'hôpital central de l'armée RSPAD le 22 octobre 2023. La veille, Anis Mohaimin a également subi le même processus. Le couple Prabowo-Gibran doit passer un contrôle de santé le 27 octobre, dernier jour fixé par la Commission électorale générale. Ensuite, la Commission électorale générale vérifiera les documents requis pour les pairs des candidats potentiels du 19 au 28 octobre, avant la détermination des binômes des candidats à la présidentielle et à la vice-présidence le 13 novembre 2023. Le processus effectué et la notification des résultats de la vérification des documents requis pour les binômes des candidats potentiels, les révisions et ou le processus de compétition des documents requis. S'il est déclaré qu'un candidat potentiel ne répond pas aux exigences absolues, conformément au règlement KPU numéro 22, de 2018, article 24, la Commission électorale générale demandera aux partis et coalitions qui la soutiennent de proposer de nouvelles paires de candidats en remplacement. Comme le prévoit l'article 26, si la paire de candidats de remplacement proposée ne répond toujours pas aux exigences, le parti ou la coalition qui la soutiennent est alors déclaré incapable de nommer de nouveau une paire de candidats de remplacement. De cette manière, le parti ou la coalition de soutien n'a pas réussi à proposer des candidats conformément aux exigences déterminées par le KPU. Après le tirage au sort officiel et la détermination des numéros de série des candidats à la présidentielle et à la vice-présidence le 14 novembre, la véritable bataille entre les candidats a commencé. Il est certain que les couples de candidats à la présidence et à la vice-présidence prépareront des stratégies pour remporter la victoire à l'élection présidentielle de 2024. En attendant, pour le peuple indonésien, en particulier les électeurs potentiels, c'est le moment de découvrir et d'examiner les avantages de chaque candidat, l'examen des antécédents des paires de candidats jusqu'au 14 février 2024, jour du scrutin, détermine leur choix. Il reste encore 4 mois aux électeurs potentiels pour découvrir soigneusement et minutieusement les forces et les faiblesses du duo de candidats à la présidentielle. Surtout pour les jeunes électeurs potentiels qui représentent 52% de la liste électorale permanente. Connaître et comprendre quels sont les plans de travail de chaque paire de candidats est également très important. Car l'avenir de l'Indonésie ne réside pas seulement dans les deux candidats à la présidentielle, mais aussi dans les mains des électeurs. Bon, chers auditeurs, c'est tout le commentaire.
Chers auditeurs, bonsoir, voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 25 octobre 1945. Les Alliés ont débarqué 6000 soldats à Surabaya. L'arrivée des troupes 25 octobre 1945 au port de Tanjung Perak a été dirigée par le général de brigade Aubertin Walter Soden Malabi. Les troupes alliées ont commencé à contrôler des bâtiments importants autour du port. Les troupes alliées, au nombre de 6000, ont établi 8 postes de défense dans plusieurs coins de la ville et avec l'intention de désarmer toutes les zones contrôlées par la population. Leur arrivée s'est heurtée à la résistance des troupes indonésiennes, donnant lieu à un conflit armé. L'un d'eux était le conflit du 30 octobre 1945 près du pont Rouge à Surabaya. Cette bataille a tué le général Malabi. La mort du général Malabi a déclenché le lancement d'un ultimatum britannique et le déclenchement de la bataille du 10 novembre 1945 dont on se souvient comme de jour des héros. Passons maintenant à l'événement du 25 octobre 2000, la journée internationale des artistes a été célébrée pour la première fois. La journée internationale des artistes est célébrée chaque 25 octobre. La commémoration a pour but de rendre hommage à la créativité et à l'esprit de l'artiste. Le 25 octobre a été choisi comme journée internationale des artistes car il coïncide avec la date de naissance de l'un des artistes le plus célèbre au monde, à savoir Pablo Picasso. Picasso était un artiste espagnol né en 1881 qui est considéré comme ayant révolutionné le monde de l'art au XXe siècle. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 25 octobre 2010, tremblement de terre de Mentawai. Un tremblement de terre s'est produit dans les îles Mentawai le 25 octobre 2010 d'une magnitude de 7,6. Ce tremblement de terre a entraîné le soulèvement de la zone côtière de l'île de Pagay de Sud, agrandissant les îles voisines et créant même 6 nouvelles îles. En conséquence, 408 personnes auraient été tuées et 303 autres portées disparues. Ces auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir. Thank you.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Sajritak, bonsoir. Voici mon Indonésie ayant pour le titre Les progrès de la mise en œuvre de la feuille de route, la clé du développement durable en Indonésie. Le président Joko Widodo a assisté et ouvert le sommet quotidien des investisseurs de BNI 2023, mardi le 24 octobre 2023, qui s'est déroulé dans Hutan Kota Plataran à Jakarta. Cette activité annuelle axée sur l'économie et l'investissement a pour thème « Croissance durable, défis mondiaux » ou « Soutenir la croissance au milieu des défis mondiaux ». Ce forum examine la force économique de l'Indonésie et son rôle sur la scène mondiale qui est actuellement confrontée aux défis, à la fois des conflits géopolitiques et de la crise climatique. Dans son discours, le président Joko Widodo a souligné que la clé du développement durable de l'Indonésie est de garantir le bon déroulement de la mise en œuvre de la feuille de route préparée.
Tinggal kita ini biasanya dari kunci keberlanjutan itu bukan di kebijakan makronya.
C'est généralement la clé de la durabilité. Elle ne réside pas dans les politiques macroéconomiques ni dans les plans macroéconomiques, mais le plus important est de savoir comment superviser leur mise en œuvre. Travaux minutieux, contrôles détaillés, travaux de terrain, supervisés et contrôlés sur le terrain. Cela signifie que le micro-travail est très important, le goulot d'étranglement est surmonté. Le chef de l'État a déclaré qu'il avait toujours encouragé chaque ministère et institution à constituer une équipe de suivi afin que la mise en œuvre sur le terrain soit conforme aux politiques décidées. Dans son discours, le président Joko Widodo a également souligné la situation mondiale avec le changement climatique qui s'aggrave et provoque des sécheresses provoquant une baisse de la production de riz dans presque tous les pays. Selon le chef de l'État, 22 pays ont décidé de freiner et d'arrêter les exportations de riz. Cette situation, selon le président Jokowi, a été exacerbée par l'affaiblissement de l'économie mondiale et la politique d'augmentation des taux d'intérêt élevés et à long terme par les États-Unis, ainsi que les guerres interminables russo-ukrainiennes et israélo-palestiniennes rendront la situation encore plus difficile pour les économies de tous les pays, car elles déclencheront une augmentation des prix du pétrole. À cette occasion, le président a également encouragé le courage de prendre des décisions dans chaque plan de développement indonésien. Selon le président, non seulement les calculs économiques, mais aussi d'autres facteurs doivent être pris en compte lors de la prise de décision. Le président a souligné que toutes les parties doivent être vigilantes et prudentes face à cette situation, tant du point de vue monétaire que budgétaire. En répondant aux questions des journalistes après la cérémonie d'ouverture du sommet quotidien des investisseurs de BNI 2023, le président Joko Widodo a souligné que la base de la croissance économique de l'Indonésie était de pouvoir continuer à augmenter les exportations et les investissements. C'est Ritter, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Kan ku raih masa depan ku yang cerah, walau badai menerjang ku takkan menyerah.
Setiap langkah pasti punya tujuan, terjadi dengan atau tanpa bantuan. Langkah kakimu melesat atau tersandar, jalani karena dia kan jadi sahabat. Ketika niat raga sudah menjadi takdir, curang terdalam pun akan segera berakhir. Bintang di ujung langit pasti akan teraih, lalui ombak yang tetap akan berbunyi.
Sedari dulu ku bermimpi membelah langit, pecahkan labirin, ambil kesempatan kesempatan di dalam sempit, untuk nafas baru dalam waktu yang sedikit, untuk raga baru yang tak lelah menahan sakit, untuk semangat yang masih mencoba untuk bangkit, untuk ratusan peluh yang mengalir di atas kulit. Yakin kau bisa raih mimpi di ujung langit, menari dengan keadaan kaki terjepit.
Kan ku raih masa depan ku yang cerah,
setinggi langit angkasa lepas ku berkarya, berharap suatu saat berubah menjadi nyata. Keinginan, usaha, doa dan pengorbanan, tentukan pilihan, wujudkan masa depan. Bagai bumi berotasi tak pernah berhenti, bukan terus berlari, gapai semua mimpi.
Ya, masih ada cinta untuk bertahan, masih banyak semangat untuk wujudkan angan. Ya, pasti, kita pasti, pasti bisa, pasti mampu, pasti kita bisa maju. Selama mencari terbit masih dari timur, selama nafasku masih menemani umur. Bukan raih mimpiku tinggi-tinggi, karena ku yakin akan be what I wanna be.
Ku raih masa depan
ringan, maka jangan dibikin berat. This life must go on. Mari kita raih mimpi kita setinggi-tingginya. Genggam erat pegangan, kita berangkat sekarang.
Change de guitare, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Cher Jolitard, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Cher Jolitard, l'idée de construire le musée de l'engagement de la jeunesse est venue des auteurs du deuxième congrès de la jeunesse. La signification de l'engagement de la jeunesse pour la nation indonésienne est très importante. Car lors du deuxième congrès de la jeunesse, la simple chanson Indonesia Raya a été interprétée pour la première fois. Un engagement commun, une patrie en paix et une langue indonésie a également été lancé par des jeunes issus des représentants régionaux et insulaires. Selon les auteurs du congrès de la jeunesse, l'idée de construire le musée de l'engagement de la jeunesse et de transmettre à la jeune génération les valeurs d'unité lancées par la génération 28. C'est pour cette raison que le 15 octobre 1968, professeur M. Sunario a envoyé une lettre au gouverneur du DKI Jakarta, Ali Sadikin, demandant de l'attention et des conseils sur le bâtiment Kramat 106 avant que les valeurs historiques qu'il contient soient préservées. Le bâtiment Kramat 106 a finalement été transformé en musée sous le nom de Gedung Sumpah Pemuda. L'inauguration a été réalisée par le gouverneur de DKI Jakarta, Ali Sadikin, le 20 mai 1973. L'histoire initiale du bâtiment Kramat 106 remonte à environ 1925. Le bâtiment était une résidence et un lieu de rassemblement et de réunion pour les étudiants de Zone Java. Il s'agit pour la plupart d'étudiants de Langdi School of Medical Education ou STOVIA et de la faculté de droit RHS. Auparavant, les militants de Zone Java louaient un bâtiment de 460 m² dans la région de Kuitang. Mais comme il était trop étroit pour accueillir des activités de scoutisme, de discussions politiques et la pratique artistique javanaise, il a déplacé au bâtiment Kramat 106. Les membres de Zone Java et d'autres étudiants l'appelaient ainsi le bâtiment Langen Siswo. En septembre 1926, après le premier congrès de la jeunesse dans ce bâtiment, l'Association des étudiants indonésiens PPPI fut fondée. En outre, le bâtiment Kramat 106 est également un lieu de rencontre pour les jeunes et invite souvent des personnalités influentes telles que Bung Karno. Le point culminant de la fréquente rencontre et discussion entre étudiants a conduit à l'émergence du deuxième congrès de la jeunesse qui a donné naissance au serment de la jeunesse le 28 octobre 1928. Chers auditeurs, au musée des serments de la jeunesse, vous trouverez des objets historiques qui rappelleront aux visiteurs le moment du serment de la jeunesse. En dehors de cela, vous pouvez également voir des statues de personnalités du serment de la jeunesse telles que W.R. Supratman, Muhammad Tabrani et Muhammad Yamin au musée du serment de la jeunesse. Il existe également des dioramas illustrant l'atmosphère du deuxième congrès de la jeunesse. Tous les ornements historiques sont encore bien conservés aujourd'hui. Actuellement, outre les billets d'entrée très bon marché, le musée du serment de la jeunesse peut également être utilisé comme moyen d'éducation historique pour les enfants. Le musée ouvert tous les jours peut être visité de 8h à 16h heure locale. Le musée du serment de la jeunesse est géré par le ministère indonésien de la Culture et de l'Éducation. À l'occasion de l'anniversaire du serment de la jeunesse le 28 octobre, il n'y a aucun mal à apprendre l'histoire pour se souvenir des luttes et des sacrifices des jeunesses indonésiennes pendant la période coloniale néerlandaise. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!
Pertama ku tak menyangka semua akan begini. Ku yakini aku takkan selalu sendiri. Namun kenyataan jomblo meski ku katakan hanya kau yang terindah. Aku saat kita jadi
jom. Kiranya kau memberikan satu kesempatan untuk membuktikan hati ku hanya untukmu.
Aku sungguh meragu, maukah dirimu katakan satu cintaku.
Aku takkan bohong, ini bukanlah modus, namun jangan begini terus kau gantung dan gak jelas.
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute! Chers auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Separuh Perjalanan. Separuh Perjalanan. Mi-chemin. Bonne écoute. Chers amis, ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation intitulé Separuh Perjalanan. Separuh Perjalanan. Mi-chemin. Cette conversation a eu lieu entre Chris, un vlogueur australien, et Sortauli, une amie de vlog de Chris, lors d'un voyage du lac Singkarak au lac Meninjau. Sortauli a informé Chris qu'ils étaient à mi-chemin du lac Singkarak au lac Meninjau. Bon écoute.
Kita sudah sampai mana? Apakah masih jauh?
Kita sudah separuh perjalanan. Sebentar lagi kita akan melewati kelok 44.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions, des phrases et des mots liés au sujet d'aujourd'hui intitulé Separuh Perjalanan. Separuh Perjalanan. Mi-chemin. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois et puis vous pouvez me répéter. Kita sudah separuh perjalanan. Kita sudah separuh perjalanan. Nous sommes déjà à mi-chemin. Kita, nous. Sudah, déjà. Separuh, mi. Perjalanan, chemin. Sampai mana, jusqu'à où? Apakah, est-ce que? Chers amis, dans une conversation, vous avez entendu l'expression kita sudah separuh jalan. Kita sudah separuh jalan. En français, nous sommes déjà à mi-chemin. Dans ce discours, il y a le mot separuh, mi. Le mot separuh, mi signifie moitié. Dans ce discours, l'expression separuh perjalanan, mi-chemin, est utilisée pour exprimer la distance parcourue à la moitié du trajet. Chers amis, allez écouter un exemple d'utilisation de mots separuh, mi dans une autre phrase. Saya sudah makan separuh nasi di piring. Saya sudah makan separuh nasi di piring. J'ai mangé la moitié du riz dans l'assiette. Chris menghabiskan separuh porsi ikan bilih goreng. Chris a terminé la moitié de la portion de poisson bilis frit. Chers amis, Kellogg 44 ou Kellogg 44 est une route sinueuse entre le lac Sinkarak et le lac Manjau. Chaque virage a un angle très aigu, entre 45 et 65 degrés. Le virage 44 était autrefois le parcours de la course cycliste internationale Tour de Sinkarak. Chers amis, avant de terminer, apprendrez l'indonésien pour comprendre mieux. Écoutons encore une fois la conversation. Bon écoute.
Kita sudah sampai mana? Apakah masih jauh?
Kita sudah separuh perjalanan. Sebentar lagi kita akan melewati Kellogg 44.
Bon, chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Voice of Indonesia.
Chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bon écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson de Papouasie intitulée Apusé. La chanson Apusé est l'une des chansons folkloriques les plus connues de Papouasie. Les paroles racontent l'histoire d'un petit-fils qui dit au revoir à ses grands-parents. Il souhaite migrer vers la baie de Doreri. Même si les grands-parents avaient l'impression d'être perdus, ils ont quand même laissé partir leur petit-fils. Bon, chers auditeurs, voici une chanson intitulée Apusé, chantée par Vita Alvia. Bonne écoute!
Sore dore ri, uflen so, banine ma.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @boyindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.